Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'impression que le terme de chemin est un peu le fil rouge de notre culte. Jean-Pierre en a parlé, Anne-Marie en a parlé. Puis on va lire aussi un texte ce matin qui nous parle de quelqu'un qui marche, qui est sur un chemin. Je vous invite à ouvrir ou à allumer vos Bibles. Au livre de la Genèse, chapitre 37. Nous allons lire les versets 1 à 17. Ils vont aussi s'afficher derrière moi. Et je les lis dans la version Nouvelle Bible Seconde. Genèse chapitre 37, versets 1 à 17. Jacob habita en Canaan, dans le pays où son père avait séjourné en immigré. Voici la généalogie de Jacob. Joseph, à l'âge de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. C'était un garçon qui accompagnait les fils de Bila et les fils de Zilpa, les deux concubines de Jacob, femmes de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils se mirent à le détester. Il ne pouvait lui parler sans hostilité. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez ce rêve que j'ai fait, je vous prie. Nous étions au milieu des champs, à lier des gerbes. Soudain, ma gerbe se dressa et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Vas-tu donc être roi sur nous? Vas-tu être notre maître ?» Et ils le détestèrent encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le rabroua. Il lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait? Devons-nous venir nous prosterner jusqu'à terre devant toi, moi, ta mère et tes frères ?» Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Les frères de Joseph allèrent faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères font paître le troupeau à Sichem, n'est-ce pas? Viens, je vais t'envoyer auprès d'eux. » Il répondit, « D'accord. » Il reprit, « Va voir si tes frères vont bien. » Et si le petit bétail va bien, je te prie, tu me rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne. L'homme lui demanda, « Que cherches-tu ? » Il répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » L'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph poursuivit son chemin à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. » Vous connaissez sans doute, vous avez déjà lu ce passage, je pense. Joseph qui grandit dans une famille compliquée. On a 11 versets qui nous montrent des relations hyper compliquées quand même. Et c'est crescendo, il y a un crescendo dans la complication et dans les tensions relationnelles. Jacob fait du favoritisme, il a 12 fils, et puis il va favoriser son chouchou, Joseph, il le montre. Les frères et les demi-frères de Joseph ont de la haine, de la détestation envers leurs frères. Et cette haine ne cesse de grandir. Et Joseph, de son côté, qu'est-ce qu'il fait ? D'une certaine manière, il apporte de l'eau au moulin de leur haine en rapportant leurs mauvais propos à son père, en racontant de manière un peu naïve des rêves où, assez évidemment, c'est lui qui est au centre, qui a la place d'honneur. Les frères détestent encore davantage Joseph. Et Jacob, lui, commence à comprendre qu'il y a un problème, que la situation risque de devenir hors contrôle. Et il décide d'intervenir. « Va voir si tes frères vont bien, si le petit bétail va bien, je te prie. Tu me rapporteras des nouvelles. » Dans le texte en hébreu, on dit « Va voir le shalom de tes frères. Va voir le shalom de tes frères. » et rapporte-moi ces paroles. » On sent l'intention de Jacob que les paroles que va rapporter Joseph ne seront plus des ragots, des racontars, de rapporter des mauvaises choses, mais de rapporter des paroles de paix, de shalom. Mais ce n'est pas tellement sur toute cette partie-là qu'on va s'attarder ce matin, c'est sur les trois derniers versets qu'on a lus. Je vais les relire. « Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne. L'homme lui demanda, « Que cherches-tu ? » Il répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » L'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph poursuivit son chemin à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. » Trois petits versets qui servent de transition entre la situation de départ et puis la suite de l'histoire. Et pourtant, c'est un épisode qui a, je pense, plus de choses à nous dire qu'il n'y paraît. On va afficher la carte des différents endroits qui sont mentionnés. Et ce texte, donc on voit que Joseph est parti d'Hébron pour aller jusqu'à Sichem. Il lui a fallu 3-4 jours de marche. Et Joseph se retrouve dans une situation inconfortable. Il ne trouve pas ses frères, qui devaient être à Sichem. Il se retrouve à errer dans la plaine de Sichem, en cherchant ses frères alors que ses frères n'y sont plus. Ne pas savoir où aller, être dans une situation d'errance, c'est pas très agréable. Et je pense que dans nos vies, il y a plusieurs choses qui peuvent nous amener à être dans une situation telle que Joseph. On peut ne pas arriver à trouver ce qu'on cherche. On cherche une bonne chose, on pense enfin y arriver, et puis au final, ben non. Ça peut générer un sentiment de déception, un sentiment de frustration, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore du chemin à faire, parce qu'on n'arrive pas aussi vite à avancer, parce qu'on a l'impression de faire un peu du surplace. Et c'est des situations qu'on peut expérimenter dans la vie chrétienne. On voudrait tant que nos relations entre frères et sœurs soient plus simples, soient vraiment empreintes d'amour. On voudrait tant que nos cœurs soient purifiés, que nos pensées soient purifiées. On voudrait tant que cette tentation qui nous fait du mal soit plus simple à combattre. I still haven't found what I'm looking for. Qui sait à quoi je fais référence quand je dis ça? Non, mais vous, ça compte pas. Non? I still haven't found what I'm looking for. Ouais, j'ai entendu. You too. Ouais. On peut afficher la photo. Voilà. C'est une chanson du groupe de rock irlandais U2. Je suis un très grand fan et puis j'ai eu la chance de les voir au Stade de France en juillet. Ça, c'est la prise photo prise pendant qu'ils chantaient cette chanson-là. Alors le chanteur est Bono est un croyant, même si des fois on peut... Voilà. Mais en tout cas, il dit des paroles, je trouve, très fortes. Et ce chant-là raconte l'histoire de quelqu'un, donc « I still haven't found what I'm looking for », en français ça veut dire, Léa, « J'ai toujours pas trouvé ce que je cherche ». Et donc il raconte le parcours de sa quête de l'amour. Donc il raconte au début de la chanson avoir fait différentes expériences, ne pas avoir trouvé ce qu'il cherche. Et il finit à la fin de la chanson pour dire que ce en quoi il croit, c'est au royaume qui doit venir. Sous-entendu le royaume de Dieu. Il parle de ce Dieu qui a porté la croix, qui a brisé les chaînes. Et malgré ça, il dit « j'ai toujours pas vraiment trouvé ce que j'ai cherché ». Parce que, et c'est comme ça que moi je comprends ce chant, il sait qu'il ne trouvera complètement et pleinement que lorsque Jésus reviendra. Être déçu parce qu'on n'arrive pas forcément à atteindre toujours nos objectifs. Je pensais être fort, et voilà que je tombe encore dans le péché, voilà que je tombe encore, que je cède à la tentation. Je pensais que ma relation avec tel frère, avec telle sœur allait pouvoir être normalisée, et voilà qu'un nouvel obstacle arrive. Ces situations d'errance peuvent arriver dans nos vies, parce que ce que l'on souhaite atteindre n'est pas aussi simple d'accès que ce que l'on pensait. Et si on se sent parfois un peu freiné dans notre vie chrétienne, je pense que le texte de ce matin nous invite à ne pas nous contenter de cette situation. Joseph ne sait pas où aller, et il va rencontrer un homme, et cette rencontre va changer le cours de son voyage. Alors, qui est cet homme ? que Joseph rencontre par hasard, et qui par hasard sait où se trouvent ses frères. C'est quand même étonnant. Alors, les rabbins juifs du Moyen-Âge, Rachi de Troyes par exemple, ont traditionnellement interprété ça, ce texte-là, en disant c'est l'ange Gabriel qui est venu à la rencontre de Joseph. Et sans forcément aller jusque-là de manière un petit peu aller vite en besogne, mais sans aller jusque-là, on peut quand même être frappé de par cette rencontre qui est surprenante, qui est étrange, qui rappelle un épisode qui intervient plus tôt dans la Genèse, lorsque Agar est partie, qui était enceinte, est partie dans le désert, puis elle rencontre l'ange de l'Éternel, qui lui pose des questions et qui la remet sur le bon chemin. Donc on ne nous dit pas ici l'identité de cet homme. Il y a un certain mystère sur son identité. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a partie liée avec Dieu, qu'il est présent parce que Dieu a bien voulu qu'il soit présent à cet endroit-là. Il se présente de manière providentielle et pose une question à Joseph. Que cherches-tu ? Que cherches-tu ? Une question assez anodine en apparence. Je pense que pour Joseph, elle a un sens assez profond. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce qui nous est dit au verset 2 sur l'âge de Joseph à cette époque ? 17 ans. Est-ce que quelqu'un connaît un poème français qui parle de « on n'est pas sérieux quand on a 17 ans » Arthur Rimbaud. Et là, j'ai envie de dire, pour Joseph, on pourrait dire « on n'a pas forcément coupé le cordon ombilical quand on a 17 ans ». Joseph, s'il est là, à Sichem, en train de traîner, de tourner en rond, c'est parce que son père lui a demandé d'être là. Lui, le fils favori, qui obéit tout de suite, vous avez peut-être noté, d'accord, je t'envoie, ok, pas de souci, je t'obéis. Et voilà qu'on lui demande ce que lui, il cherche, pas ce que cherche son père. C'est une question qui oblige Joseph à regarder son cœur, à réfléchir à ses motivations. On pourrait se dire, mais il les cherche, il ne les trouve pas, ben, il fait demi-tour et il retourne chez son père en disant, je ne les ai pas trouvés, je suis désolé, mais... Que cherches-tu ? Que cherches-tu ? Pour nous aussi, si on est dans une situation où on a l'impression de ne plus savoir trop dans quel chemin avancer dans notre vie chrétienne, écoutons cette question. Que cherches-tu ? Que cherches-tu toi ? Pas que cherchent tes parents, que cherche la société, que cherche tout ce qui peut exister comme pression autour de nous. Mets ça de côté et réfléchis à ce que toi, tu cherches profondément dans ton cœur. Et de manière parfois surprenante, Jésus posait ce type de questions aux personnes qu'il rencontrait et qui faisaient appel à lui. Il leur demandait de faire le même exercice de mouvement vers soi, de regarder leur motivation. On va lire juste deux versets dans Luc, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Jean. C'est toujours des questions qui m'ont frappé. Donc, le premier, c'est avec la rencontre de Jésus avec un aveugle. Jésus s'arrêta, Luc 18, verset 40, et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Jean 5, verset 6, où il y avait un paralytique près de la fontaine à Jérusalem, Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Dans ces deux exemples, on voit que Jésus n'impose pas son action aux hommes et aux gens qu'il rencontre. Il attend que la personne exprime d'elle-même ce qu'elle souhaite, qu'elle exprime son besoin, qu'elle exprime son attente. Dieu ne s'impose pas à nous. Il ne va pas nous obliger à suivre tel ou tel chemin. Je pense qu'il vient à notre rencontre, comme on l'a dit avant. Il vient à notre rencontre, comme il est venu à notre rencontre en Jésus, et nous pose la question « Que cherches-tu ?» Alors une question ouverte comme ça peut donner le vertige. On peut penser à toutes sortes de besoins, toutes sortes de désirs que l'on peut avoir, toutes sortes de recherches. On va afficher la diapositive suivante. Vous avez peut-être vu déjà ce schéma-là, qu'on appelle la pyramide des besoins de l'homme, pyramide de Maslow. Et donc c'est une approche parmi d'autres qui est parfois même contestée. L'homme a besoin de sécurité, l'homme a besoin d'amour, l'homme a besoin d'estime, l'homme a besoin d'auto-réalisation de soi-même. On peut passer. Enfin, on peut l'enlever. En tant que chrétien, nous savons que nos besoins ne se limitent pas à ça. Nous avons aussi des besoins spirituels, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Nous avons besoin de pouvoir vivre les dons de l'Esprit dans nos vies. Nous avons besoin que notre foi soit enracinée et consolidée. Que cherches-tu? Quels sont tes désirs? Qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui te motive? Et pour répondre à cette question, Dieu peut nous aider, peut nous guider. Joseph accomplit sa part dans à cette question que lui pose l'homme. Il lui dit « Je cherche mes frères ». Et la traduction littérale de l'hébreu, c'est « mes frères, moi je cherche ». On sent que c'est l'expression de son désir profond. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Il sait bien qu'il ne pourra pas les trouver tout seul. Il dit « S'il te plaît, dis-moi où ils sont ». Exprimer à Dieu notre besoin doit s'accompagner aussi de notre prière de dire « Seigneur, aide-moi à arriver, à marcher, à aller dans ce sens-là. Oui, j'ai besoin de réconciliation avec telle personne, mais aide-moi, Seigneur. Je cherche à vivre de manière plus authentique, ma foi. Aide-moi, Seigneur. Montre-moi comment le faire. Je cherche à me défaire de ce péché qui rôde près de moi. Je cherche à me défaire de cette tentation qui me mine. Seigneur, viens à mon aide. Montre-moi le chemin. » La dernière phrase de notre passage nous dit que Joseph poursuivit son chemin à la recherche de ses frères et qu'il les trouva à Dothan. Lui qui ne voyait plus clair, qui ne savait pas comment avancer, a désormais une direction à suivre. Et la rencontre de cet homme envoyé par Dieu a été déterminante. S'il n'avait pas rencontré, il n'aurait jamais rencontré ses frères. Quand Dieu intervient dans nos vies, quand nous sommes disposés à lui poser, à lui demander de l'aide et à l'écouter, il nous montre le chemin à suivre. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, qui disposons de l'ensemble de la Bible, qui vivons après la venue du Christ, nous savons que le chemin que Dieu nous indique, il passe par la crèche de Bethléem, il passe par la croix de Golgotha, il passe par le tombeau vide, il passe par Jésus. Jésus n'est pas venu sur la terre pour montrer le chemin. Jésus est le chemin. On va lire ce verset connu, Jean chapitre 14, verset 6. Et on va le laisser afficher pour la fin de la prédication. Jésus dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Marcher à la suite de Christ, c'est marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour les hommes, pour ses enfants. Pourquoi? Parce que tous nos besoins, tout ce qu'on peut imaginer comme besoin, que ce soit les besoins qui ont été formalisés dans la pyramide de Maslow, que ce soit les besoins que l'on voit dans notre vie spirituelle, tous ces besoins-là sont parfaitement comblés en Jésus-Christ. Sécurité, amour, estime de soi, reconnaissance, accomplissement. Alors, ils ne vont pas être remplis forcément de la manière que l'on aurait imaginé. Pas remplis de la manière dont la société ou le monde aurait imaginé, mais ils vont être parfaitement remplis. Je vais vous demander de faire quelque chose qui va peut-être vous paraître incongru maintenant. Je vais vous demander de serrer la main de votre voisin. Voilà, c'est fait. Voilà. Vous avez serré la main de votre voisin. Alors votre voisin, il est bien là. Hein? Vous l'avez. Il est bien réel, en chair et en os. Palpable, tangible. Et vous savez, est-ce que vous savez que Jésus-Christ est tout aussi réel que votre voisin là? Le fait qu'on ne puisse pas le toucher, qu'on ne puisse pas lui serrer la main, ça n'enlève rien à la réalité de sa présence aujourd'hui. Ce matin, au moment où on parle, Jésus est aussi réel que votre voisin. Et je pense que c'est une vérité qu'il faut se rappeler régulièrement. et peut-être même paradoxalement au temps de Noël aussi, où les images mentales qu'on peut avoir, c'est Jésus, le bébé qui est dans la crèche, quelque chose qui était il y a 2000 ans. N'oublions jamais que Jésus est vivant, que Jésus est vivant aujourd'hui. Et que suivre Jésus, marcher à la suite de Jésus, ce n'est pas simplement suivre des préceptes moraux qui ont été annoncés il y a 2000 ans, mais c'est marcher à la suite du Dieu vivant, du Dieu incarné, qui est réel. Joseph suit le chemin qui mène à ses frères. Vous connaissez la suite de l'histoire. Lorsqu'il arrive, ses frères complotent contre lui, le jettent dans une fosse, le vendent à des marchands d'esclaves. Il est accusé faussement de viol en Égypte. Il est jeté en prison. Ça aurait été pas plus simple qu'il ne rencontre pas cet homme finalement, Joseph. Et qu'il retourne chez son père en disant « Désolé, je ne les ai pas trouvés ». Que d'épreuves, hein, injustes en apparence, que de désillusions. Mais au bout du compte, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph va, enfin, lorsqu'il dit « ce sont mes frères que je cherche », il va les trouver, ses frères, de manière vraiment pleine. Il va trouver cette fraternité qui lui manquait, 20 ans plus tard. Ce chemin qu'il a pris, après avoir rencontré cet homme, il va le suivre jusqu'au bout avec l'aide de Dieu. Et dans nos vies également, suivre Christ, marcher à la suite de Christ, nous amène dans des situations difficiles. Et je ne dis pas ça pour faire du dolorisme, mais c'est ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples. Et c'est aussi, je pense, que ce que l'expérience nous montre. Ne soyons pas étonnés par les difficultés que nous rencontrons dans notre marche chrétienne, même lorsque nous sommes assurés de marcher sur le chemin que Christ nous montre. Continuons à marcher avec persévérance sur ce chemin, à la manière de Joseph qui a été jusqu'au bout pour rencontrer ses frères. Pas les rencontrer juste physiquement, mais les rencontrer aussi dans son cœur. Ce matin, quelle que soit notre situation, si on a le sentiment de faire du surplace dans notre vie chrétienne, si on a le sentiment que telle chose que l'on recherche avidement, on a du mal, on a tant de mal à l'atteindre, laissons-nous trouver par Dieu. Joseph a dû se laisser trouver par cet homme pour finalement trouver ses frères. Écoutons cette question. Que cherches-tu ? Que cherches-tu ? Et lorsque nous répondons à cette question, n'oublions pas de demander à Dieu l'aide pour y arriver, pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce désir de notre cœur. Amen.